God is so good. Oh, shindare de la sanda. Ah, yeah, 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 yeah. God is good. Nous ferons mieux de le côtoyer, de passer du temps avec Dieu. On ne se lasse pas de passer du temps avec Dieu. Dieu est bon, extraordinaire. La réconciliation avec Dieu. Il n'y a rien de meilleur de pouvoir savourer sa présence. Oh! Savourer sa présence. Être connecté avec l'Éternel. Constamment reconnaissant envers Jésus de nous avoir réconciliés. Wow, thank you Jesus. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, donc, il est allé quelque part, et la parole de Dieu nous dit dans Luc 4, 19, écoutez bien, qu'il a déclaré ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dites guérir.
Guérir.
Il m'a envoyé pour guérir. Jésus est venu pour guérir. Il n'est pas venu pour affliger. Il n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour guérir. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu amener la délivrance. Glory to God. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Dieu a quelque chose à cœur vous concernant. Il veut que vous soyez libres.
Amen.
Il y a deux personnes qui l'ont saisi. Il veut que vous soyez
libres.
Libre, ça c'est ce pour lequel Jésus est venu. Jésus est venu pour que nous soyons libres.
Amen.
Pour envoyer libres les opprimés. Libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur.
Alléluia.
Glory to God. Et ce faisant, il citait le passage dans Ésaïe 61.
Alléluia.
Une prophétie messianique. Sur la venue du Christ et les raisons pour lesquelles il venait. Et Jésus lui-même a ouvert ce passage de Ésaïe 61 devant tous les gens qui étaient rassemblés pour leur culte. Et lorsqu'il a terminé ce passage, il a déclaré que cette parole est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous vivons dans un monde où les gens ont de fausses idées sur Dieu et s'imaginent que Dieu est responsable de tout le mal qui leur arrive et s'imaginent que s'ils devenaient chrétiens, ils allaient vivre une petite vie étriquée. Non, si vous devenez chrétien, vous allez devenir libre. Alléluia. Parce que le monde est enchaîné. Vous voyez les gens autour de vous. Ils ont telle crainte, telle peur, telle phobie, telle ceci. Tout enchaîné. Par ceci, ce n'est pas ça, c'est autre chose. Lui, il y a ça, l'autre, ça. Dieu a envoyé son fils pour libérer l'humanité du joug de Satan. Et celui qui donne sa vie à Jésus peut être libre s'il accepte la délivrance que Jésus offre. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs.
Amen.
Alléluia. L'évangile est une bonne nouvelle.
Yes.
Glory to God. Renvoyez libres les opprimés.
Amen.
Jésus est venu pour libérer, pour briser l'oppression. Dans Actes 10, 38, il nous est dit que Jésus de Nazareth, il allait partout faisant du bien et guérissant ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et qui opprimait le diable? Et Jésus faisait quoi? Il libérait ceux qui étaient opprimés. Aujourd'hui encore, Jésus continue à libérer ceux qui sont opprimés. Il continue à guérir. Il continue à libérer. Il continue à délivrer. Le message de l'évangile, ce n'est pas que vous êtes des pécheurs, vous allez en enfer. Le message de l'évangile, c'est que Jésus est venu vous sauver de l'enfer. Je vous ai lu ce passage la semaine dernière dans Luc 3, 16, là où Jésus a guéri cette femme qui était infirme. Et la parole de Dieu nous parle du fait qu'elle avait un esprit d'infirmité, qu'il y avait un esprit qui provoquait cette infirmité. Et lorsque Jésus l'a guéri et que les docteurs de la loi ont voulu commencer à discuter sur le fait qu'il a guéri le jour du sabbat, Jésus a dit, mais cette fille d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans, qui est-ce qui lie les gens? C'est Satan. Qui est-ce qui libère? C'est Dieu.
Amen.
Alléluia. Et il est toujours en train de libérer. Il est toujours en train de délivrer. Et il y a des gens ici qui peuvent donner des témoignages. Notre petite Russe ici présente, je l'ai connue à ses débuts dans la foi. Mon Dieu, elle a été délivrée.
Alléluia.
Glory to God. Si elle crie trop fort et que ça vous énerve, c'est parce qu'elle sait de quoi elle a été délivrée.
Amen.
Elle sait d'où elle est sortie. Et parfois, il y a des gens comme moi qui sont un peu exubérants. C'est vraiment parce que nous prenons conscience de ce dont il nous a tirés. Oh, glory to God. Délivré. Et Jésus a dit, c'est une fille d'Abraham. Est-ce qu'elle ne doit pas être libérée? Elle a été liée par Satan pendant 18 ans. Cette femme était courbée. Elle était comme ça. Physiquement courbée. Et il y a des gens qui sont physiquement courbés. D'autres sont mentalement courbés. Il y en a qui sont spirituellement courbés. Il y en a d'autres qui sont courbés dans leur âme. Et Jésus est venu pour briser l'oppression, pour libérer, pour guérir. Pour guérir, dites guérir. Jésus est venu pour guérir. Et c'est important de le savoir. Et il n'a pas changé d'avis. Il continue encore à guérir. Dieu a toujours voulu guérir. Lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas malade. Mais ensuite, la maladie est intervenue, la mort. Et Dieu veut guérir encore, aujourd'hui, encore, encore et encore. Et il nous demande de marcher avec lui et marcher dans la guérison et recevoir la guérison. Nous avons vu que quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit qu'il allait éloigner la maladie du milieu d'eux. Et nous sommes des fils et des filles d'Abraham. La parole de Dieu nous le dit dans Galates, dans Romains. Alléluia. Alors si cette fille d'Abraham ne devait pas être malade, vous non plus. Parce que vous êtes un enfant d'Abraham. Vous faites partie de cette alliance. Alléluia. Mais c'est important d'être convaincu de ce qu'est le cœur de Dieu. Parce qu'il y a eu tellement de choses prêchées pendant des années pour dire que si tu es malade, c'est que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Et les gens acceptent d'être liés par Satan en pensant qu'ils sont en train de vivre une vie de sainteté. Non, Jésus est venu pour guérir et non pas pour affliger. Et nous disons, nous savons que Jésus est venu pour guérir. Et Jésus continue à guérir. Parce que c'est un des mandats qu'il a donné à son église. Il nous a dit de faire beaucoup de choses, mais il nous a dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Pourquoi? Parce qu'il veut que les malades soient guéris.
Yes.
Nous l'avons vu pendant que Jésus était sur terre. Ça ne s'est pas arrêté lorsqu'il est parti. Les disciples ont continué à amener la guérison. Ont continué à prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours le même.
Amen.
Et lorsque vous imposez les mains à quelqu'un pour la guérison, ce n'est pas vous qui guérissez la personne en réalité. Ce n'est pas votre puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus qui continue encore aujourd'hui à guérir. Mais il a besoin d'une église qui va saisir la réalité de sa parole et dire c'est bon, c'en est fini de la médiocrité et de la petitesse d'esprit. Nous allons vivre la vie du royaume de Dieu. Nous allons nous donner la peine parce qu'il y a quelque chose que nous avons à faire. Et ça va au-delà du fait que je viens à l'église une fois par semaine, deux fois par semaine. Il y a quelque chose qui doit venir de moi. Dieu nous a créés comme des êtres réfléchis, pensants, qui ont un choix, qui ont une volonté, qui ont la capacité d'agir. Et Dieu nous demande d'écouter sa parole et d'agir. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Mais comment recevoir la guérison? Je veux que vous regardiez avec moi dans Matthieu chapitre 8, verset 5. À partir du verset 5. Parce que nous allons essayer de voir, nous voulons comprendre, n'est-ce pas? Comment nous pouvons vivre dans la santé? Comment nous pouvons être libérés de la maladie? Et nous devons savoir que si Dieu est Dieu et que Dieu veut que nous soyons guéris, alors c'est lui qui a le dernier mot. Et Dieu veut un peuple qui va se lever, qui va prendre de la hauteur et qui va commencer à penser comme Dieu pense, à parler comme Dieu parle et qui va saisir les défis et ne pas dire ce n'est pas parce que j'ai prié pour quelqu'un et la personne est décédée, c'est fini, je prie plus pour personne. Non, je saisis le défi pour dire la parole de Dieu est vraie. Je vais laisser Dieu m'enseigner, je vais apprendre, je vais prier, je vais chercher jusqu'à ce que ces choses deviennent réalité en moi et que je commence à manifester le désir de Dieu sur la terre. Alléluia. Matthieu chapitre 8, recevoir la guérison. Au verset 9, il y a une histoire ici que beaucoup connaissent. Au verset 5 plutôt. Il nous dit ici, comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un officier romain. Le priant, donc en nom juif, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Parce que vous savez que quand les gens sont malades, ils souffrent beaucoup. Il est temps que l'Église soit émue de compassion devant la souffrance des gens qui nous entourent et que nous décidions de prendre les choses à bras le corps et d'apprendre comment marcher dans cette dimension de la puissance de Dieu pour guérir. Souffrant beaucoup, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Vous voyez que Jésus n'hésite jamais. Il n'y a pas un seul moment où on vient lui demander et dit, oh, bon, je sais pas, écoute, je suis un peu occupé ces jours-ci, on va voir, Et je le guérirai. Le centenier répondit, écoutez bien, c'est vraiment une indication pour que nous comprenions comment recevoir la guérison. Le premier point. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Je répète, Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi, je sais ce que c'est que d'avoir de l'autorité et que d'avoir de la puissance. Et que moi, je fonctionne dans mon autorité. Ceux qui sont sous mon autorité sont obligés d'obéir. Donc, je reconnais que toi, tu as l'autorité sur la maladie et tu as la puissance de guérir. Donc, il suffit que tu le dises et la maladie va disparaître. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait !» Selon
ta foi.
Qui ta foi soit fait selon
ta foi.
Selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La première chose lorsque nous voulons recevoir la guérison, c'est que nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu. Et nous devons croire que Dieu est capable de le faire. Il a la puissance pour le faire. C'est très important. Parce que beaucoup de chrétiens, l'image qu'ils ont de Dieu, c'est d'un Dieu tout petit. Lorsque vous commencez à parler de la puissance de Dieu dans leur situation, ils commencent à vous parler de la grandeur de leur difficulté. C'est du genre, mais tu ne comprends pas ce que je vis. Non, mais je comprends, mais je te parle de Dieu. Celui qui est au-dessus de ce que tu vis. Celui qui a sorti son peuple d'Israël avec une main puissante. Celui qui a toujours été puissant et n'a jamais changé. Celui qui n'échange sa gloire avec personne. Celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Celui qui demeure dans une lumière extraordinaire. Celui qui est l'éternel des armées, le tout-puissant. C'est de lui que je te parle. Et que lui a la capacité de faire. Et c'est important que nous ayons un renouvellement de notre intelligence et que nous voyons quelle image nous avons de Dieu. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce que leurs problèmes sont plus grands que leur Dieu. Mais ce centenier avait compris la puissance que Jésus avait. Il disait tout ce que tu as besoin de dire, c'est dire le mot. Mais est-ce que vous savez que Jésus pour nous a déjà dit le mot et c'est ça? Dans Marc 9, 23, nous voyons une autre situation. Toujours concernant la capacité de Dieu de faire. Nous devons croire que Dieu est puissant pour sauver. Dieu est puissant pour guérir. Marc 9, 23, ou juste avant, il y a un homme qui amène son enfant pour être guéri. Et après, lorsqu'il est face à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, si tu peux quelque chose, verset 22, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Lui se pose la question, si tu peux. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Jésus lui dit ensemble, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. La question n'est pas de savoir si je suis capable de le faire. La question est de savoir si toi, tu crois que je vais le faire. Si tu peux, répond Jésus, si tu peux quelque chose, mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. La question ne réside pas dans la capacité de Dieu d'agir, la question réside dans votre disposition à le croire. Tout est possible à celui qui croit. Ensuite, il y a deux aveugles qui sont venus vers Jésus dans Matthieu 9, 29. Et ces deux aveugles, ils sont venus vers Jésus, ils criaient, ils devaient décidément s'attendre à quelque chose, parce qu'ils criaient, ils demandaient que Jésus intervienne. Et ils criaient, aie pitié de nous, fils de David. Ils l'ont suivi en criant, aie pitié de nous, fils de David. Et il nous a dit que lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? La foi dans la puissance de Dieu. Amen. Jésus a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Il y a des gens qui vont dire, oui, mais Jésus n'a jamais demandé de la foi avant de guérir les gens, c'est faux. On va voir différentes manières de recevoir la guérison et d'administrer la guérison. Et si, pour vous-même, sachez que vous pouvez être guéri par la foi. Et donc, à plusieurs reprises, Jésus non seulement demande aux gens s'ils croient, et dans d'autres situations, il recommande leur foi. Et à d'autres occasions, il leur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et ici, Jésus carrément leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont répondu, oui Seigneur. Et ils devaient croire, parce qu'ils l'ont poursuivi. Et ils appelaient à l'aide. Ah oui Seigneur, lui répondit-il. Alors il toucha leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Parce que vous avez cru, recevez ce que vous avez cru. En réalité, nous recevons ce que nous croyons de Dieu. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous devons croire que Dieu peut. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans la puissance de Dieu. dans sa capacité d'agir. Parfois, vous encouragez les gens à faire confiance au Seigneur, mais ils sont en train de chercher là. Vous dites, mais ça, c'est pas compatible avec Jésus. Oui, mais moi, j'ai juste besoin d'un truc qui va m'aider. C'est que je ne crois pas qu'il puisse le faire. Mais il y a autre chose aussi que nous avons besoin de croire pour recevoir la guérison. Nous avons besoin de croire qu'il veut le faire. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu est puissant. Mais ils ont plus une approche de déiste que de chrétien. Dieu est là, grand, souverain, majestueux, puissant, splendide, tout ce que vous voulez. Mais alors, il n'intervient plus dans mes affaires. Il ne veut plus, il s'est lavé les mains, il a fait ce qu'il a à faire, maintenant on se débrouille. Est-ce que Dieu veut? Parce que si nous savons que Dieu peut, la question de savoir, est-ce que Dieu veut? Et souvent, lorsque nous sommes confrontés à des échecs, beaucoup de gens se font une raison et disent « Oui, mais bon, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. » Nous n'avons pas le droit de décréter ce qui est la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous montre ce qui est la volonté de Dieu. Votre expérience n'est pas le juge de la volonté de Dieu. Alléluia. Ni l'expérience de votre voisine. Et souvent, notre théologie est basée sur notre expérience, sur nos échecs et nos défaites. Et donc, on continue à vivre et à reproduire les mêmes défaites parce que nous ne levons pas les yeux pour regarder celui qui est plus haut que nous, recevoir sa pensée et décider de nous relever, nous hisser au niveau où il veut que nous soyons. Est-ce que Dieu veut? Dans le cas du lépreux, il a demandé à Jésus, il a dit, si tu veux... Dans Matthieu 8, 1, le lépreux s'était approché de Jésus et s'est prosterné devant lui. Il reconnaissait sa puissance. Il reconnaissait qu'il était différent. Il reconnaissait que c'était pas juste un autre rabbin. Il reconnaissait que lui, il guérissait. Lui, il faisait des miracles. Lui, il avait une capacité. Lui, il était différent. Donc, il reconnaissait sa capacité. Et il s'est prosterné devant lui. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus n'a pas eu à réfléchir, à méditer, à se demander s'il était de bonne humeur ou pas, à dire, mais oui, mais enfin, il faut me dire, à fouiller dans son passé. Il n'a même pas demandé s'il allait à l'église, s'il était sauvé. Il n'a pas demandé s'il priait 3 fois par jour. Il n'a pas demandé s'il parlait en langue. Il ne lui a rien demandé. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Il le voulait pour le lépreux, il le veut pour vous. Dieu ne fait exception de personne. Il le veut. Mais c'est important que nous croyions, que nous décidions que nous allons prendre Dieu au mot, que nous allons laisser de côté tout ce qui est du passé, que nous allons décider que c'est un jour nouveau. Que nous ne sommes pas condamnés à vivre avec la même maladie toute notre vie. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que ça doit continuer encore pendant 40 ans. Il y a un jour de salut. Il y a un jour de délivrance. Lorsque Jésus a rencontré Zachée, il a dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, le salut vient dans ta maison. Et il y a un jour, nous décidons qu'aujourd'hui, le salut vient dans ma maison. Parce que Dieu nous a donné la capacité de nous approprier par la foi les promesses de l'évangile. Nous devons croire que Dieu peut, nous devons croire qu'il veut. Et il y a quelque chose que nous avons à faire. Dans Marc 11, lorsque les disciples s'émerveillaient de ce que Jésus ait maudit en figuier et que le figuier se soit desséché, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que Jésus ne s'est pas pavané, ne leur a pas dit, mais oui, c'est parce que je suis Jésus. Il n'a pas dit, mais vous êtes petit. Jésus a élevé ses disciples. Dieu est toujours en train de chercher à élever son peuple. C'est notre honneur de nous humilier devant lui, c'est sa grâce de nous élever. Dieu ne piétine pas ses enfants. Il dit, moi je suis rien, petit de moi, malheureux. Oui, tu n'étais rien, tu étais petit, tu étais malheureux, mais Dieu a fait de toi un enfant du royaume. Il a fait de toi un enfant de Dieu, rempli de la vie de Dieu, qui n'a pas à courber la tête, qui n'a pas à se ratatiner, qui n'a pas à rester petit, qui doit se lever et devenir un géant et s'approprier les promesses de Dieu et amener la manifestation dans sa vie de tout ce que Dieu a dit. Dieu, l'Éternel a ordonné que tu sois puissant. Et que tu sois guéri. Alléluia. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Littéralement, ce passage dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et il ne doute point en son cœur, mais croit, dites croit. Crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça s'applique à tous les domaines de notre vie, ça s'applique à tout ce que nous connaissons comme étant la volonté de Dieu. Ça s'applique à la guérison. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'a pas dit peut-être que, il a dit non. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Dites, vous le verrez. Dites à ton voisin, tu le verras. Il suffit de le croire et tu le verras. Avoir foi dans la parole de Dieu veut dire savoir ce que dit la parole de Dieu concernant la guérison. Ça ne veut pas dire mémoriser un verset. Ça veut dire se donner la peine de se remplir, de se saturer, de voir quelle est la pensée de Dieu. Dieu accomplit sa volonté lorsqu'il trouve un homme, une femme qui coopère avec lui. Oh, beaucoup de gens deviennent enfants de Dieu et s'asseyent comme ça. Vous savez les petits oiseaux? Génial! Ah, où est Dieu? Lorsque Dieu a dit à Israël, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il leur a dit, quand vous allez arriver, vous allez construire des tentes et vous allez rester là tranquille toute la journée allongée? Non, vous allez cultiver la terre. Vous allez travailler la terre. Je vous donne une terre fertile. Mais alors, vous allez vous lever et vous allez la cultiver. Elle va donner des fruits en abondance. Mais après que vous ayez commencé à la cultiver, vous allez, qu'est-ce qu'on fait les agriculteurs? Alléluia, vous allez labourer, vous allez semer, vous allez planter, vous allez arroser, vous allez vous en occuper avec tendresse. Et après, cela va donner des fruits. Il en va de même pour la parole de Dieu, pour tout ce que Dieu va faire dans nos vies, pour notre guérison. Nous voulons être guéris, nous pouvons être guéris en ayant foi dans la parole de Dieu, mais ce que dit la parole de Dieu, nous devons le connaître. Nous devons planter cette parole dans nos cœurs. La parole de Dieu nous dit dans cette parabole du semeur que la semence, c'est la parole de Dieu. Et cette semence qui est dans cette Bible ne m'est utile que si elle est en moi. Et c'est quand je la plante en moi que je commence réellement à avoir foi dans ce qu'elle me promet. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est au fur et à mesure que je la médite et je la plante en moi que la foi vient. Que la conviction grandit en moi. Que je suis le premier et non le dernier. Alléluia. Que la conviction grandit en moi. Que la guérison est mon dû, est mon droit. Pas mon dû, mon droit. Et la guérison est mon droit. Pas uniquement parce que lorsque Jésus était sur la terre, il guérissait. La guérison est mon droit. Pourquoi? Parce que Jésus a porté mes maladies à la croix. Et c'est au fur et à mesure que je médite et je mange Ésaïe 53. Alléluia. Quelqu'un nous a dit ici qu'il avait une révélation. Et la révélation, c'est que nous ne devons jamais faire de régime spirituel. Nous ne devons jamais jeûner la parole de Dieu. Toujours consommer en abondance la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que je la consomme en abondance, la révélation grandit à l'intérieur de moi, la conviction grandit à l'intérieur de moi que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et que donc cette maladie qui est dans mon corps est obligée de disparaître parce qu'elle a été guérie il y a 2000 ans. Elle ne le sait peut-être pas, mais moi je le sais. Et il suffit que moi je le sache. Il suffit que moi j'en sois convaincu. Nous devons croire, nous devons être convaincus que nous avons le droit d'être guéris. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils sont toujours en train de supplier Dieu de les guérir, en pensant que si Dieu les guérit, ce serait parce que Dieu décide de leur accorder une faveur spéciale. Dieu ne décide pas au coup par coup d'accorder une faveur spéciale à elle et pas à elle. Elle, je vais la guérir. Elle, non. Elle exerce la foi, mais peu importe qu'elle exerce toute la foi qu'elle veut, elle sera jamais guérie. Non. Il nous a accordé sa faveur en Jésus. Et parmi ce que Jésus nous a apporté, c'est la possibilité de vivre dans la santé. Et avoir la conviction que c'est mon droit en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean 5, verset 14, il nous dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est merveilleux. Nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Lorsque je suis convaincu que sa volonté, c'est que je sois en bonne santé et je demande, je suis convaincu qu'il m'écoute. Je ne suis pas en train d'espérer que Dieu veuille bien écouter et qu'il veuille bien répondre. Non, je sais qu'il m'écoute. Mais pour que j'aie la certitude qu'il m'écoute, je dois avoir la certitude que ce que je demande, c'est sa volonté. Il m'écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée parce que nous savons qu'il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute parce que nous demandons selon sa volonté. Et il a donné la garantie que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et que s'il nous écoute, nous pouvons considérer que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Donc, lorsque nous faisons confiance à Dieu pour la guérison, la première chose, c'est que nous demandons selon sa volonté. C'est que nous sommes imprégnés de la parole de Dieu au point où nous sommes convaincus que son désir, c'est de guérir. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aimé Saint-Bou MacPherson, la fondatrice du mouvement Foursquare, dans les années 20 ou 30, si je m'abuse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait des guérisons spectaculaires dans son ministère. Mais avant que les gens ne viennent, ne s'avancent pour recevoir la prière, il fallait d'abord qu'ils assistent à des enseignements sur la guérison. Il fallait d'abord qu'ils se remplissent de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi on voit moins de guérisons aujourd'hui que du temps des apôtres, simplement parce que l'Église n'a pas enseigné sur la guérison. Parce que, sauf par des moments par-ci, par-là, nous avons préféré nous limiter à l'enseignement sur le pardon des péchés. Glory to God. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, les gens devaient d'abord assister à des enseignements sur la guérison et se remplir de la parole de Dieu avant de s'avancer pour recevoir la prière, parce qu'il fallait d'abord qu'ils bâtissent leur foi. Et c'est important que chacun saisisse pour dire, la foi est accessible. Jésus a remarqué la foi de ces personnes à d'autres. Il demandait, est-ce que tu crois? Et c'est important pour nous de le savoir. Le premier moyen pour nous de recevoir la guérison, c'est de faire confiance à la parole de Dieu. Et ça, personne ne peut le faire à votre place, mais vous êtes tout à fait capable de le faire. Pourquoi? Parce que la foi vient. Ce passage nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la première chose que je dis quand j'enseigne sur la foi, c'est que la foi vient. Elle vient. Elle est disponible et elle est accessible. Et si vous la cherchez, elle viendra. Tout le monde peut exercer une grande foi. Souvent, les gens se limitent. Elles disent, oui, mais moi, j'ai pas de foi. Ce n'est pas grave, tu peux en avoir. Et c'est important que nous définissions quels sont nos besoins. Si j'ai besoin de guérison, je dois voir, est-ce que ma foi est forte? Si elle ne l'est pas, eh bien c'est là où je vais travailler. Je ne vais pas travailler en pleurant, en pleurnichant, en me plaignant. Non, je vais travailler ma foi. Ce que vous croyez aujourd'hui est le résultat de toutes les informations que vous avez accumulées et dont vous vous êtes nourri. Et c'est important pour nous de travailler au bon endroit. Tout ce que nous allons être et accomplir en Dieu sera fonction de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons est fonction des informations que nous recevons. Et c'est très intéressant souvent, lorsque je parle avec des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est drôle ce que des gens autrement intelligents répètent tous la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils se disent entre eux. Ils finissent tous par croire la même chose et chacun le répète comme si c'était totalement nouveau. C'est important de savoir que nous avons des voies d'accès dans notre être, dans votre esprit, par vos yeux, par votre langue, par vos oreilles. Vous faites entrer des choses en vous qui vont déterminer ce que vous croyez. Et quand je suis enfant de Dieu et que je veux recevoir la guérison et je vois que ma foi n'est pas forte, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à dire oui, mais si seulement j'avais la foi ou rester pendant des années et des années à vivre dans la maladie parce que je ne sais pas, je n'ai pas la foi, j'ai la possibilité de l'obtenir. Car de voisin, tu as la possibilité de l'obtenir. Alléluia. Et quand je commence à méditer la parole de Dieu, la foi vient. Dans Proverbe 4, 20 à 22, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie pour ceux qui la trouvent. Qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu, c'est la santé. La santé pour tout leur corps. Ce que vous entendez, ce que vous écoutez a son importance et détermine si oui ou non votre cœur est rempli de foi. Quand je médite constamment sur ce que Dieu dit, je commence à croire ce que Dieu dit. Et au fur et à mesure que je médite la parole de Dieu, dans cette parabole du semeur, lorsque Jésus parle du fait que la semence est la parole de Dieu, nous voyons les différents types de terres. Et sur certaines terres, cette semence a porté des fruits. Sur d'autres terres, la semence n'a pas porté de fruits. Et notre objectif, c'est d'être de ces terres où la semence porte des fruits. Et décider que la parole de Dieu va entrer en moi et elle va bâtir la foi en moi. Et nous devons constamment nous donner des projets. Si vous avez besoin de guérison dans un domaine, ne restez pas là un jour à espérer que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, va penser à moi. Il a déjà pensé à vous. La venue de Jésus, c'est parce que Dieu a déjà pensé à toi. Il a déjà pensé à moi. Il a déjà pourvu le nécessaire. Et maintenant, c'est à moi de prendre les choses à bras le corps et de dire, ok, que dit la parole de Dieu sur la guérison? En réalité, que nous ayons besoin de guérison ou pas, il y a toujours des gens autour de nous qui ont besoin de guérison. Et Jésus nous a dit d'aller, d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Pour que nous puissions le faire avec foi, nous devons être convaincus de ce que Dieu dit concernant la guérison. Ce qui veut dire que je dois être incollable sur la guérison. Que je dois être en mesure de dire, voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Parfois, les gens viennent pour la guérison. Vous demandez tout au tien sur quel verset, quelle est la promesse de Dieu qui te fait venir croire que Dieu va te guérir. Je ne sais pas. Dieu fonctionne avec sa parole. Il donne, il envoie à sa parole et il est guéri. Et notre foi vient de ce que nous savons que Dieu a promis de faire. Notre foi vient de ce que nous savons que Dieu a déjà accompli. Lorsque je suis convaincue que par ces meurtres ici, j'ai été guérie et que j'écoute et que ça me remplit à l'intérieur, il y a une conviction, il y a une assurance qui vient, qui fait que là où avant je le savais dans ma tête, maintenant je le sais dans mon corps et je n'accepte plus de considérer que je vais rester malade toute ma vie. Je le sais et j'en suis convaincue. Je partageais hier avec quelques personnes, cette femme, Lillian B. Humans, le médecin dont j'ai partagé le témoignage la semaine dernière, elle parlait d'une femme qui était dans sa maison de guérison parce qu'elle avait ouvert sa maison, elle et sa sœur, et accueillait des personnes qui étaient en phase terminale. Et priait pour eux sur la base, pour elles, sur la base de la parole de Dieu. En fait, passer son temps à leur lire la parole de Dieu, à les faire méditer la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu sur la guérison. Et elle parlait de cette femme à qui elle avait partagé ce passage dans Galates que nous avons lu. Il parle du fait que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. Et ensuite, il lui explique qu'il faut que tu le dises, confesse-le. Ça, c'est autre chose. Ce que nous croyons doit sortir de notre bouche. Nous devons croire et dire. Ce passage de Marc 11, 23, 24 nous dit que si nous croyons ce que nous aurons, ce que nous aurons dit. Alors, beaucoup de gens disent, j'ai foi que Dieu me guérit, mais en même temps, ils sont toujours en train de parler. Ah, je suis tellement malade, c'est pas possible, je sais pas ce qui m'arrive. Oh, qu'est-ce que Dieu fait? Ça, ce n'est pas la foi. Alors, elle apprenait, elle parlait de cette femme, elle l'avait apprise. Quand elle est arrivée, elle a dit non, cette femme était en phase terminale, pas de solution. Donc, elle a tout été rachetée de la malédiction de la loi. Il faut que tu commences à le dire. Et que tu commences à dire la maladie, elle donnait le nom de sa maladie, fait partie des malédictions de la loi. Donc, j'en ai été rachetée. Ça ne doit pas rester là. Il lui a pris une confession. Genre, ça n'a pas de place dans mon corps. Elle était toujours malade. Donc, cette femme a commencé à dire, oui, j'ai été rachetée de la malédiction de la loi. Elle a commencé à déclarer que cette malédiction n'avait pas, cette maladie n'avait pas de place dans son corps. Et au début, c'était oui, mais je ne le sens pas. Elle dit, oui, ce n'est pas grave, c'est la parole de Dieu, dis-le quand même. Jusqu'un jour, quelques jours plus tard, cette femme qui était clouée au lit, elle est descendue dans la cuisine pour leur dire, mais est-ce que vous savez que j'ai été rachetée de la malédiction de la loi? La révélation. Dites révélation.
Révélation.
La révélation.
Révélation.
Robert Gladden, un serviteur de Dieu, il disait, pendant des années, il allait dans les réunions de Kenneth Hagin, un homme qui a enseigné sur la guérison pendant plus de 60 ans. Lui-même a eu un témoignage extraordinaire de guérison, justement par la foi. Ça tombe bien, je vais vous raconter son témoignage. Et pendant des années, il enseignait sur ce passage de Marc 11, 23, 24. Il enseignait sur ce passage. Et lui, il était là, il y assistait parce qu'il était enfant, sa grand-mère l'amenait, il a grandi en écoutant ça, parce que deux fois par semaine, il l'écoutait. Et chaque fois, il ouvrait dans Marc 11, 23, 24, il était encore. Jusqu'à un jour où c'était comme un waouh, il a eu une révélation, il a compris. Il a compris. La foi ne vient pas de ce qu'on a entendu, mais de ce qu'on entend.
Amen.
Alléluia. Oui, mais il y a 5 ans, j'ai cru. Non, aujourd'hui, est-ce que tu crois? Et ce qui est extraordinaire en plus, c'est que Dieu ne nous demande pas ce que nous ne pouvons pas faire. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Et non seulement ça, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu la possibilité d'être illuminés par l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et Dieu est toujours content d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que quelque chose qui nous pensons connaître et tout d'un coup c'est mais je vois mais alléluia. Révélation. Et la foi vient de la parole de Dieu. Mais elle vient toujours. Elle vient toujours. Elle vient toujours. Et je médite et la foi vient et je déclare ce que je crois. Lorsque je demande la guérison à Dieu et que je demande, j'ordonne à la maladie de quitter mon corps et mon cœur aussi, s'il y en a. Et je déclare que je suis racheté de la malédiction de la loi. Et donc, telle maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Et je le confesse, je le déclare. Jésus a dit, vous aurez ce que vous aurez dit. Il ne s'agit pas de venir pour l'intercession, prier pour moi. Et ensuite, 2 jours plus tard, oh, je suis tellement malade. Vous aurez ce que vous aurez dit. Il y a un homme qui s'appelait Canon Glennon. C'était un prêtre anglican, australien. Il était connu pour son ministère de guérison. À un moment donné dans sa vie, il a pris conscience du fait que Dieu guérit aujourd'hui et qu'il veut le faire à travers son église. Et il a commencé à enseigner sur la guérison et à faire des réunions de guérison. Et il raconte le témoignage d'une femme qui était venue pour la guérison. Elle et son mari sont universitaires. Et sont allés le voir parce qu'elle souffrait de migraines.
Et il a prié pour elle. Ensuite, quelques temps après, il a vu le mari, il a demandé alors, et lui, « Ah oh non, mais depuis que tu as prié pour elle, tout a disparu. » Ah, oh bon, d'accord, merci de me l'avoir dit. Et cette femme, après, lui a donné son témoignage. Elle a dit que tout avait complètement disparu. Et un jour, les migraines sont revenues. Et elle sentait ça commencer. Alors, tout le monde savait à quel point ces migraines étaient sévères. Et personne ne lui en aurait voulu si elle avait décidé de prendre ses cachets, d'aller se coucher. Mais elle avait dit non, non, parce qu'elle a compris la prière de la foi. Et elle a choisi de dire non, 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 Dieu m'a guéri. J'ai été guérie. Je n'accepte pas que ces migraines reviennent. Elle a commencé à déclarer sa liberté, à confesser sa foi dans le fait qu'elle a été guérie et que ces migraines n'avaient pas le droit de revenir. Et elle a tenu bon. Et au bout d'un moment, ça a disparu. Et ce n'est pas devenu aussi aigu que par avant. Et plusieurs fois, les migraines sont revenues. Et à chaque fois, elle se tenait fait pour dire, non, j'ai été guérie. Il n'est pas question que ces migraines reviennent. Et à chaque fois, les migraines disparaissaient. Et ça s'espaçait dans le temps. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté complètement. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que Dieu a besoin de notre coopération. Il y a une des façons dont nous recevons la guérison, la façon majeure dont nous recevons la guérison, le moyen majeur pour recevoir la guérison, c'est en exerçant notre foi dans la parole de Dieu. Notre foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix, qui inclut la guérison de nos corps. Ce qui veut dire, je laisse la parole de Dieu me remplir au point où j'en suis absolument convaincu. Je reçois la prière, je reçois la guérison et je n'en démords pas. Et c'est important de comprendre comment la guérison s'opère. Parfois, la manifestation de la guérison est progressive. Et c'est important, qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Il nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Il n'a pas dit, croyez que vous le recevrez un jour. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est important de comprendre la nuance. C'est que Dieu s'attend à ce que quand nous venons par la foi, au moment où nous demandons, nous estimons que c'est chose faite. Il n'a pas dit, quand vous le voyez, croyez. Il a dit, quand vous le demandez, croyez. Au moment où vous le demandez, vous estimez que c'est fait. Pourquoi? Parce que c'est fait dans l'esprit. Ça va se manifester dans le naturel. Parfois, ça se manifeste tout de suite dans le naturel. Parfois, ça se manifeste après. Mais c'est important dans le domaine de la guérison, par exemple, d'avoir davantage confiance dans la parole de Dieu que dans les symptômes. Et parfois, lorsqu'on prie pour des gens et la puissance de Dieu entre eux, ils les touchent et ils reçoivent leur guérison. Deux jours après, ils ressentent de nouveau les symptômes. C'est, ah oui, mais je pensais que Dieu m'avait guéri. Finalement, il ne m'avait pas guéri. Si. Simplement, il y a un moment où toi, tu vas te tenir pour dire, ah non. Jésus a dit de croire que je l'ai reçu. Il a dit que si je demande selon sa volonté, je dois savoir qu'il m'écoute. Et si je sais qu'il m'écoute, je possède ce que j'ai demandé. Nous sommes des êtres spirituels. Plus nous sommes affinés dans l'esprit, plus nous sommes en mesure de comprendre la réalité des choses spirituelles qui ne sont pas manifestées physiquement. La guérison est une réalité spirituelle. Ce que nous voulons, c'est l'amener à la manifestation physique. Et au moment où je demande, au moment où je fais la prière de la foi, en ce moment-là, je considère que j'ai reçu. Alors, les symptômes peuvent crier autant qu'ils veulent, je continue à dire que c'est chose faite. C'est ce que Dieu appelle la foi. Les disciples étaient étonnés lorsqu'ils ont vu le figuier se dessécher. Jésus n'était pas étonné. Au moment où il l'a dit, il savait que c'était fait.
Amen.
Et c'est le genre de foi que Dieu veut bâtir en nous si nous coopérons avec lui. Mais nous n'allons pas avoir ce genre de foi si nous nous réveillons très tard le matin et nous avons à peine le temps de nous habiller et de courir au travail. Et ensuite, nous rentrons le soir, nous passons la soirée au téléphone avec des copains et des copines à papoter. Ensuite, on branle télévision, on va se coucher. Seigneur, je t'aime. Alléluia. On n'est pas guéri comme ça. Et on ne vit pas dans la victoire comme ça. Mais nous remplir de la parole de Dieu, Dieu veut nous amener dans une dimension de vie surnaturelle. Où nous ne sommes pas déterminés ni conditionnés par des choses naturelles. Où nous sommes déterminés et conditionnés uniquement par la parole de Dieu qui est surnaturelle et qui est créative, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Qui change les données naturelles. Mais cette parole, nous devons l'épouser. Elle doit être en nous, elle doit nous remplir, elle doit nous saturer, elle doit sortir par nos yeux, nos oreilles, partout quand on ouvre la bouche, quand on dit comment tu vas, merveilleusement bien. Vous ne réfléchissez même pas, c'est évident pour vous que vous n'êtes pas malade. Mais pour marcher dans la guérison par la foi, il faut renoncer à la pitié sur soi. Il y a quelques petits éléments que je vais vous donner. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher. Le fait de vouloir, il y a des gens qui exigent ce qu'ils appellent la compassion. En réalité, c'est la pitié. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pauvre de moi. Non, si vous avez reçu la guérison par la foi, vous n'êtes plus pauvre, vous n'êtes plus malheureux, vous êtes guéri. Oh, ces symptômes, ça va disparaître. Ça ne peut que disparaître. Je me souviens, il y a quelques années, je priais, je disais, Seigneur, je sais que le diable est têtu, mais je veux que tu me rendes plus têtu que lui. Plus coriace que lui. Il est obligé de lâcher parce que Jésus a gagné la victoire. Pourquoi il ne lâche pas? Parce que les chrétiens lâchent. Mais la foi vient, dites, la foi vient.
La foi vient.
Elle vient. Et c'est une chose merveilleuse que d'être conscient d'avoir confiance en Dieu. Cette vie où on a confiance en Dieu. Et on n'est pas balayé à droite et à gauche par « un tel m'a dit, et un tel m'a fait, il est arrivé ça, il est arrivé ça. » Et alors? La vie à laquelle Dieu nous appelle est une vie de force, une vie de puissance, une vie d'autorité, une vie de foi. Et c'est lui qui le fait en nous. Il faut renoncer à la pitié sur soi. Il y a quelque chose que Jésus dit ici au verset 25, on est toujours dans Marc 11. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Dites pardonnez.
Pardonnez.
Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Parfois nous ne sommes pas guéris parce que nous ne pardonnons pas. Et c'est important de le savoir. Il faut pardonner. Votre santé, votre relation avec Dieu est beaucoup plus important que ce que la personne vous a fait. En réalité, personne ne le mérite. Vous donnez trop d'importance aux gens lorsque vous refusez de leur pardonner. Vous leur donnez une importance excessive en considérant qu'ils ont un poids sur votre vie, un rôle qu'ils n'ont pas. Une importance qu'ils n'ont pas, une influence qu'ils n'ont pas, c'est donner trop d'influence à quelqu'un que de refuser de lui pardonner.
Amen.
Parce que celui à qui vous ne pardonnez pas continue à vous enchaîner. Et il y a quelqu'un qui disait que lorsqu'on retient le pardon, il y a un esclave et c'est la personne qui retient le pardon. Et pour marcher recevoir la guérison par la foi, c'est important de savoir qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, qui peuvent nous empêcher de grandir dans la foi. Et l'une de ces choses-là, c'est le non-pardon. Il faut pardonner. Autre élément important, c'est le manque de repentance. Comme je dis toujours, la repentance est un joli mot. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, ce sont nos péchés qui nous cachent son visage. Dieu ne se laissera jamais convaincre que ce qui est de ma faute n'est pas de ma faute et c'est de la faute de Béa. Je peux lui faire tous les sourires que je veux. Je peux jeûner pendant 40 jours pour l'en convaincre. Je peux réciter tous les psaumes. Je peux m'agenouiller du matin jusqu'au soir. Il ne se laissera jamais convaincre que ce qui est de ma faute est de la faute de Béa. Quand j'aurai fini tous mes gestes et tout mon théâtre, quand j'aurai fini, là, il va... Tu vas te repentir. C'est important de le savoir. C'est pour réellement vivre dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous, dans la guérison, recevoir la guérison par la foi, il faut marcher étroitement avec Dieu. C'est pas juste, je lui lance des versets. Allez, tu as dit ça. Obligé, tu dois le faire. Exécute, s'il te plaît. Non. Père. Une relation d'amour, une relation d'intimité. Et dans cette relation d'intimité, Dieu est en mesure de me montrer s'il y a des choses qui font obstacle à ma guérison. Est-ce que vous savez, il n'y a que moi, vous êtes tous parfaits. Vous savez qu'il y a des choses qui parfois dans nos vies font obstacle à la bénédiction de Dieu. Et c'est incroyable ce que nous sommes constamment en train de pointer du doigt les autres. Oui, mais c'est la fête du pasteur. Oui, c'est la sœur. Elle m'a dit ça. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a dit. Ça a tout à voir avec ce qu'il y a en toi. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'en dépit de tout ce qu'il voit, il nous aime quand même. Donc, si on doit s'exposer devant quelqu'un, exposez-vous devant le Seigneur. Au lieu de chercher à se cacher, Adam, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu de dire, c'est la sœur que tu m'as donnée, c'est le pasteur que tu m'as donné, c'est l'église que tu m'as donnée, c'est le frère que tu m'as donné. En d'autres termes, c'est de sa faute, c'est de ta faute, moi je n'y suis pour rien. La parole de Dieu nous dit que celui qui cache ses péchés ne prospérera pas. C'est terrible, hein? Et donc c'est important qu'il n'y ait pas de nuage entre Dieu et nous. Et dans ce processus où nous voulons que la guérison se manifeste dans notre corps, Dieu n'est pas ce Dieu éloigné, lointain, qui attend qu'on ait rassemblé toutes les données pour libérer la guérison. Non, il marche avec nous. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous encourage. Si la guérison n'est pas instantanément manifeste et que vous êtes en train de tenir par la foi et déclarer la parole de Dieu tous les jours, je suis guéri au nom de Jésus, j'ai été racheté de la malédiction de la loi. Je refuse de vivre sous l'emprise de la maladie, je suis guéri. Pendant que vous êtes en train de manifester des symptômes, vous déclarez, je suis guéri. Le Saint-Esprit est là, il va vous encourager. Il va vous encourager. Il va vous dire, c'est bien ma fille, continue, c'est ça. Et vous allez dans le lieu d'intimité, au lieu d'aller dans la prière, dire, Seigneur, pourquoi tu me guéris pas, c'est pas juste, t'as guéri Georgette, elle n'est même pas jolie, c'est quelque chose. Seigneur, je t'adore. Je te remercie. Je te remercie parce que il y a 2000 ans, tu m'as guéri. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue ton nom, Seigneur. Et ça va dans tous les domaines de notre vie pour avancer spirituellement. Comprenez une chose, c'est que Dieu n'est fautif de rien. Il n'est pas notre problème. Il est notre solution. Alléluia. Et donc dans tout, toujours dans cette intimité avec le Père, papa, je viens simplement passer du temps avec toi aujourd'hui. Vous demandez la guérison pour vous en train de déclarer la guérison sur vous. Vous avez c'est tout qui vous quitte pas. Vous demandez la guérison. Oh, je te bénis. Seigneur, dites quand même. Ne veux pas. Oui, je peux pas te bénir là parce que je tousse. Si tu veux que je te bénisse, tu me guéris. Vous vous rendez compte? L'infiniment petit et l'infiniment grand.
Alléluia.
Et on lui fait la tête. Non. Même en toussant, bénissez-le.
Amen.
Vous continuez à le bénir en toussant, au moment donné, là, tout va disparaître.
Amen.
Dieu est digne. Il est grand. Il est puissant. Il mérite l'honneur. Il mérite la louange. Il mérite la célébration. Amen. Je m'offre à lui, quel que soit mon état. Je ne lui impose pas une obligation de résultat. Le résultat est déjà fait, Jésus. La rédemption, le salut, c'est à moi de m'approprier tout ça. Et pendant que je suis en apprentissage, je reconnais que je suis en apprentissage, je suis disciple de Jésus, je suis apprenti de Dieu et je continue à l'honorer, à le remercier parce qu'il m'a guéri. Et je n'en démords pas. Et quels que soient les symptômes, et quand je vais voir les médecins et qu'ils disent, vous avez 5 jours à vivre, mais non, je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les louanges de l'Éternel.
Amen.
Le témoignage du père Hagen. qui nous a quittés, qui est maintenant auprès du Seigneur. Lorsqu'il avait, toute sa vie, il était malade. Toute sa vie, il était malade. Il a dit qu'il était l'enfant le plus sobre et le plus malheureux qui soit. Les gens disent, mais cet enfant ne rit jamais. Il dit, mais pourquoi moi, de quoi j'avais à rire? Il était malade. Et quand il est né, ça c'est encore une histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, il était tellement petit. Et il pensait en fait qu'il était mort. Il n'y avait pas de vie en lui. Et le médecin, à l'époque, c'était avant l'ère de la médecine moderne, et le médecin a recommandé à la grand-mère qu'il enterre. Et la grand-mère l'a pris, parce que la mère était, bon, en état d'accouchement. La grand-mère l'a pris et elle allait l'enterrer, devenait où? Dans le jardin. Ben, à l'époque, ça se faisait comme ça. Donc, elle allait l'enterrer et elle avait l'impression qu'il y avait comme un peu de vie. Elle regardait et après, elle a vu que, ah, l'enfant est vivant. Il l'a ramené, elle l'a habillé, tant bien que mal, parce qu'il était tellement petit. Et toute sa vie, il était malade. Il n'arrivait jamais à courir, à faire quoi que ce soit. En plus, une situation familiale désastreuse. Le père, la mère qui avait épousé le père contre l'avis de la famille, parce que la famille estimait que ce n'était pas un garçon responsable. Il faut écouter la famille. Alléluia. Et donc, le père qui a abandonné la mère et la mère qui vivait dans un dénuement extraordinaire. Elle faisait tout pour essayer de nourrir ses enfants, le stress, le tout. Elle a carrément perdu la vue. Pour vous dire que ce n'était pas la joie. Et à l'âge de 16 ans, il était paralysé. Il avait deux problèmes cardiaques, deux maladies. Et il avait un problème avec son sang également. Une maladie sanguine. C'était la totale. Et les médecins s'attendaient, lui disaient que bon, il allait bientôt partir, qu'il devait se tenir prêt pour mourir. Le pire dans l'affaire, c'est qu'une fois il est mort. Et il s'est retrouvé en enfer. Et pendant qu'il descendait en enfer, il n'en revenait pas. Il a dit, mais Seigneur, mais j'ai grandi dans l'église, j'ai été à l'église toute ma vie. Et il a crié à Jésus. Et Jésus l'a sauvé.
Alléluia.
Et son témoignage, je crois que je l'ai sur mon blog. Il y a une vidéo, justement, où il explique ce témoignage quand il s'est retrouvé en enfer. Comment Jésus l'a sauvé. Donc, il a crié à Jésus. Et là, il s'est repenti, il a donné sa vie au Seigneur. Dans le sens de ce qu'on avait dit pendant le cours Racine, pour dire que ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est sauvé. Et à partir de là, bon, il était content au moins qu'il était sauvé. Ouf. Et là, il commençait à lire la parole. Il avait beaucoup de mal à lire parce qu'il ne pouvait pas lire longtemps. Il avait des problèmes de vue. Au bout d'un moment, ça commençait. Il ne pouvait pas tourner la page. Il mettait une éternité pour tourner une page. Pour vous dire, si quelqu'un comme ça a réussi à avoir la foi, nous n'avons pas d'excuses. Et il a mis des mois et des mois à lire jusqu'à arriver dans Marc 11, 23, 24. Où il a vu que la parole de Dieu nous dit d'avoir foi en Dieu et que si nous demandons quelque chose, nous devons croire que nous avons reçu, que cela nous sera accordé. Au bout d'un moment aussi, il a lu dans Jacques où il est dit, il a lu d'abord dans Jacques où il est dit qu'il faut aller appeler le passage que nous avons vu la semaine dernière, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens pour le oindre d'huile. Lui, il s'est dit, mais j'ai jamais vu ça fait dans l'église où j'allais, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il, s'il n'y a personne pour me oindre d'huile, je suis obligé de mourir alors. Et il a essayé de faire venir des pasteurs, certains ne sont pas venus, et celui qui est venu, quand il est venu, lui voulait demander, parce qu'après il est arrivé dans Marc 11, 23, il voulait demander si c'est vrai qu'il pouvait demander quelque chose à Dieu et croire, et cela lui sera accordé, donc il voulait demander à être guéri. Et il n'arrivait même pas à parler. Ah, c'est encore la paralysie. Il avait du mal à s'exprimer. Et le pasteur en question, de toute façon, n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Il est arrivé, il a commencé à consoler la famille. En leur disant de tenir bon. En lui disant lui aussi de tenir bon, que s'il n'en avait plus pour longtemps, bientôt sa souffrance sera terminée, il ira auprès du Seigneur. Et lui, il était là, non! Lui, il était là, il voulait demander pour la guérison. Et le pasteur l'expédiait auprès du Seigneur. Et donc, frustré, il était là, donc, on peut enchaîner dans ce corps immobile, en demandant à Dieu, qu'est-ce que je fais? Et le Seigneur lui a dit que ce passage était pour lui, et qu'il pouvait se l'approprier lui-même. Il n'avait pas besoin qu'un pasteur vienne pour le rendre Dieu, pour qu'il soit guéri. Ce n'était pas le seul moyen pour être guéri. Et que lui, là où il était, il pouvait s'approprier ce passage de la parole de Dieu et avoir foi dans la parole de Dieu et recevoir sa guérison. Et c'est progressivement qu'il a commencé réellement à saisir ces choses et la foi est venue dans son corps, dans son cœur et dans son corps. Il a demandé la guérison et il a été complètement et totalement guéri.
Amen.
Totalement guéri. Et il disait, il était guéri pendant un, deux jours avant même de dire à la famille, parce que, oulala, il marchait dans la, il était paralysé. Le Seigneur l'a relevé. Le problème cardiaque disparu, le problème sanguin disparu, totalement guéri. Et le jour où il a décidé d'aller au petit déjeuner avec la famille, il fallait voir la surprise générale. Mais et dans une petite ville, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que le petit était condamné. Alors, imaginez la surprise des gens quand il est sorti de l'hôpital. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, ça c'est une partie de son histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, même les gens qui le connaissent, c'est que après sa guérison, cet homme qui était malade à 16 ans, 17 ans, il a été guéri par le Seigneur. À 18 ans, il est devenu prédicateur. Il a prêché l'évangile toute sa vie et pendant plus de 60 ans, il avait un ministère de guérison, expliquant aux gens ce que dit la parole de Dieu sur la guérison et comment recevoir la guérison par la foi. Mais quelques temps après sa guérison, il a commencé à sentir de nouveau les symptômes du problème cardiaque. Et il disait qu'au bout d'un moment, il s'est retrouvé de nouveau cloué au lit. Et il ne comprenait rien. Il a dit, mais Seigneur, je sais que tu m'as guéri. Et ça, c'est important pour nous de le savoir. Comment fonctionnent les choses de Dieu. Je sais que tu m'as guéri. Pourquoi je suis de nouveau au lit? Pourquoi je suis de nouveau dans cet état? Et il a commencé à voir qu'est-ce qu'il avait fait. Comment est-ce que tu as reçu la guérison? Et après, oui, il a reçu la guérison parce qu'il a cru. Il a reçu la parole de Dieu. Il a laissé la parole de Dieu agir en lui. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que parce qu'il était au lit pendant si longtemps, il était physiquement, c'était pas quelqu'un de très costaud, il était très très mince. Et les gens prenaient pitié de lui. Ils se disaient, ah ouais, quel miracle! Mais dès qu'il était dans la rue, il y avait toujours une voiture pour s'arrêter. Tu dois être fatigué, monte! Ah, tu dois être épuisé, t'as pas l'air bien. Hein? Ah oui, oui, c'est vrai, je me sens pas bien. Il monte. Et petit à petit, il a commencé à confesser le fait que oui, il était fatigué, oui, il se sentait pas bien. Oui, ceci, oui, cela, à cause de la sollicitude, entre guillemets, des gens. Et progressivement, sa confession a changé. C'était, ah oui, je me sens pas bien. Ah oui, je suis fatigué. Ah oui, merci parce que je vais pas bien. Et progressivement, il s'est retrouvé dans l'état où il était avant. Et là, il a dit, ah non, 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 non. Il a de nouveau reçu sa guérison du Seigneur. De nouveau sur pied. Et à partir de là, dès que quelqu'un commençait à avoir un peu de sollicitude pour dire, oh, tu dois pas, ah non, non, je vais merveilleusement bien. Merci. Je vais très, très bien, merci. Les gens disaient, mais ce garçon, il a une volonté de faire. C'est pas possible. Alors, vu l'état dans lequel il était, il fait toute cette marche à pied. Non, ça va très bien, merci. Alors, non, on va te déposer parce que là, tu es tellement frêle et tu vas pas bien encore. Non, 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 merci. Je n'ai pas besoin qu'on me dépose. Je peux marcher. Alléluia. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, que lorsque nous croyons que nous avons reçu, nous n'avons plus besoin de solliciter la pitié. Et que d'ailleurs, la pitié nous fait plus de mal que de bien. Et que là, nous commençons à confesser des choses négatives sur nous, et parfois, nous faisons un pas en avant et ensuite deux pas en arrière. Si nous croyons que nous avons reçu, nous devons dire que nous avons reçu. Et cet homme qui était condamné à 16 ans, il a vécu jusqu'à 87 ans. Alléluia. Et quand il est mort dans son siège. Et les médecins ont dit que son cœur était en super bon état. Glory to God. Glory to God. Il y a des trésors dans la parole de Dieu. Et il faut des gens qui vont décider de croire la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont décider que je prends ma responsabilité dans ma propre vie. Je reconnais que Dieu m'a appelé dans son royaume de prêtre et de sacrificateur. Dieu a mis en moi la capacité de croire. Dieu a mis en moi la capacité de vaincre. De vaincre la maladie, de vaincre la détresse, de vaincre la dépression, de vaincre l'opposition. Et je vais faire ce qu'il faut pour que Dieu puisse me transformer à l'intérieur et ensuite me transformer à l'extérieur. Et si c'est dans le domaine de la maladie, je vais refuser d'accepter que quoi que ce soit, soit irrémédiable. Rien n'est irrémédiable. C'est Dieu qui a le dernier mot. Toujours le dernier mot. Ne jamais, jamais se fier aux symptômes. Ne pas considérer que ça veut dire que Dieu ne l'a pas fait simplement parce que « Ah, j'ai de nouveau des symptômes. » Non, vous dites simplement aux symptômes de partir. Parce que ce que Dieu a fait reste fait. Dieu agit sur la terre avec la coopération de l'homme. Il y a différentes manières de recevoir la guérison. Nous allons continuer la semaine prochaine sur... La semaine prochaine, je crois que nous aurons un invité. La semaine d'après, nous allons continuer sur les différentes manières de recevoir la guérison. Mais celle-ci, je vous encourage vraiment à mettre votre accent sur celle-ci. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous avez besoin simplement de vous-même et de la parole de Dieu. Nous allons parler des dons de guérison qui sont extraordinaires et nous les voulons et nous demandons à Dieu le samedi, nous prions pour des signes, des prodiges et les dons et la manifestation des dons de Dieu. C'est extraordinaire, mais vous ne pouvez pas les commander. Les dons se manifestent comme l'Esprit veut. Vous ne devez pas attendre la manifestation d'un don de guérison pour être guéri. Mettez-vous dans la parole de Dieu. La foi vient à tous. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous recevons tous parce que nous choisissons de croire. Et Dieu nous donne le moyen de croire. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous marchons dans l'intimité avec Dieu. Nous laissons la parole de Dieu nous travailler. Nous travaillons sur nos attentes. Et soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez réellement? Lorsque vous demandez la prière pour la guérison, à quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce que vous venez simplement pour prier? On ne sait jamais. Ça ne fait pas de mal. Et c'est vrai, c'est ce que vous aurez. Vous n'aurez pas de mal. Ça ne vous fera pas de mal. Mais quant à ça, ça vous fera du bien, c'est autre chose. Il faut travailler au niveau de nos attentes. Lorsque je viens pour la guérison, je dois m'attendre à être guéri. Si je sais à l'intérieur de moi que je ne m'attends pas à être guéri, je ne dois pas me leurrer. Je dois aller me plonger dans la parole de Dieu jusqu'à ce que mes attentes soient changées par la parole de Dieu. Nous sommes un peu trop émotifs dans l'église. Oui, mais j'ai pas la foi. Calme. Je n'ai pas la foi, je vais obtenir la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je sens que je ne m'attends pas à être guérie. Eh bien, je vais travailler mes attentes. Je vais me plonger dans la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle change ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et que là où avant je ne m'attendais pas, là vraiment, impossible que je ne sois pas guérie. J'en suis convaincue. Et cette conviction, Dieu donne. Et ça, c'est la part de Dieu. Il le fait. Il le fait toujours. Toujours. Et pour recevoir la guérison par la foi, là, personne n'est exclu. Tout le monde peut. Vous pouvez et je peux. Simplement dire, j'ai reçu et je continue à confesser jusqu'à ce que ça se manifeste. Alléluia. Remercions le Seigneur. Amen. Thank you, Jesus.